RCF.
Il est le 18e en poste pour le diocèse de Beléars. Cédric Picot a été ordonné diacre permanent le 29 octobre dernier à Gex par Mgr Pascal Roland. Il est l'invité de cette émission sur RCF, accompagné par Claire, son épouse. Car si c'est l'homme qui est ordonné, ce ministère est bien l'engagement d'un couple. Les diacres permanents sont des hommes mariés qui ont répondu à un appel de l'Église catholique pour être signe du service. La mission du diacre s'exerce dans sa vie familiale, professionnelle et ses engagements. Et vous allez nous en parler. Vous avez reçu cette mission le jour, ou ces missions, le jour de votre ordination. Donc, bonjour et merci à vous, Cédric et Claire, d'avoir accepté de nous donner votre témoignage. Commençons par mieux faire connaissance avec vous. Vous êtes indinois d'origine, Cédric ?
Alors non, je suis né à Grenoble. Je suis grenoblois et j'ai connu mon épouse à Grenoble.
Donc grenobloise également, Claire ?
Et non, je viens d'Auvergne, les environs de Clermont-Ferrand.
Donc tous deux, en tout cas, de notre région Auvergne-Rhône-Alpes.
Voilà. Oui.
Catholique depuis tout petit ?
Alors oui, moi, mes parents sont catholiques, j'ai grandi dans la foi catholique, on allait à la messe. Je me suis approprié ma foi en tant qu'adulte à Paray-le-Monial. Et voilà, j'ai jamais été autre chose que catholique.
Donc centre spirituel qui vous a marqué ?
Oui. Et très important pour la communauté de l'Emmanuel, dont nous faisons partie depuis bientôt 30 ans.
Et vous, Cédric ?
Alors moi, non, j'ai un parcours très différent. J'étais baptisé, mais a priori, selon ce que me disaient mes parents, l'un ou l'autre, pour l'un, plutôt pour faire plaisir à ma grand-mère. Et mes parents n'étaient pas du tout proches de l'Église, donc j'ai pas eu l'occasion de mettre les pieds dans une église quand j'étais jeune. Je n'ai pas reçu la moindre éducation chrétienne ou catholique. Et puis, j'étais en recherche spirituelle et, j'allais dire, au hasard d'une rencontre avec un ami. J'ai atterri un petit peu au hasard, quand j'avais à peu près 18 ans, à Notre-Dame de la Salette, donc lieu d'apparition de la Vierge près de Grenoble. Et ne connaissant absolument rien à la foi chrétienne, je suis arrivé à Notre-Dame de la Salette. J'ai vu des gens qui étaient tous à genoux devant la statue de la Vierge, donc j'ai fait pareil. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait une véritable rencontre avec le Christ, qui s'est révélé à moi de manière assez inexplicable. Et à partir de ce jour, j'ai désiré découvrir qui était Dieu, qui était le Christ, qu'est-ce que c'était que la foi catholique, l'Église. Et donc, j'ai été accompagné par un père spirituel, un prêtre à Grenoble, qui m'a suivi pendant de nombreuses années, et puis qui m'a invité à rentrer au catéchuménat. Donc, j'ai fait mon éducation religieuse au catéchuménat avec d'autres jeunes adultes. Et puis, j'ai ensuite reçu le sacrement de confirmation, passé par la première communion avant. Et puis, j'ai cheminé au fil des ans. Grâce à ce prêtre, grâce au catéchuménat, j'ai découvert la foi année après année. Et puis, quelques années après, j'ai rencontré mon épouse.
Donc, vous avez été loin de cette grande famille chrétienne jusqu'à votre adolescence ou jeune adulte.
Oui.
C'était à quel âge que vous êtes allé
J'ai rencontré la foi à Notre-Dame de la Salette, j'avais 18 ans.
Voilà. Et alors ça s'est manifesté comment ?
C'est assez inexplicable en fait. Je ne saurais pas vous expliquer avec des mots intelligibles ce qui s'est passé au pied de la statue de la Vierge, mais le Christ a touché mon cœur et est né dans mon cœur un grand désir de... J'allais dire carrément de lui donner ma vie, parce que j'ai touché du doigt sa présence, son amour infini. Et donc, mon premier désir a été de découvrir vraiment qui il était et de grandir dans cette foi.
Et vous n'avez pas été déçu ?
Pas du tout.
Parce que bon, c'est vrai, hein, on peut aussi entendre un appel et puis finalement ne pas y répondre dans un premier temps aussi.
Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais cette expérience, ça peut paraître un peu mystérieux. Hein, je suis pas du tout accroché au mystérieux, miraculeux ou magique. Il y a rien de tout ça là-dedans. C'est une rencontre, un cœur à cœur avec le Christ, avec la présence de Dieu qui a bouleversé ma vie à jamais.
Donc des rencontres ensuite bien marquantes par le catéchuménat, par votre épouse et votre mariage. Et puis ensuite,
l'un et l'autre. Vous disiez, Claire, que la communauté de l'Emmanuel vous a aidé, vous, personnellement, et puis que vous avez aussi cheminé ensemble au sein de cette communauté.
Oui, oui, tout à fait. Et puis le Seigneur nous parle aussi à travers des événements, pas seulement à travers des paroles, mais par... Il peut nous faire comprendre à travers une simple expérience. Par exemple, à Parelmonial, on est invité à servir, à aider au bon déroulement des sessions. Et donc, un jour, j'étais en train d'aider au service enfant. Donc, j'étais avec des petits et il y avait un petit garçon qui pleurait. Et le lendemain, j'y suis retournée. Il pleurait toujours, mais il m'a reconnue et donc il s'est calmé beaucoup plus vite. Et donc, voilà, j'ai trouvé, à travers cet exemple, je me suis rendu compte que le Seigneur aussi, c'était une présence qui était toujours là, mais bien plus fidèle que la nôtre, et qui était rassurante, et voilà.
C'est la communauté de l'Emmanuel qui a réuni vos chemins.
Exactement, ouais, voilà. Exactement.
Et dans les personnes que vous avez rencontrées au long de ce chemin, il y en a des plus marquantes
Pour moi, les personnes qui ont été marquantes, c'est les premières personnes que j'ai rencontrées dans l'Église qui m'ont accompagné. Parce que grandir dans la foi, c'est toujours avec les autres. C'est pas tout seul dans son coin en priant le bon Dieu et en attendant qu'il nous parle. C'est d'abord avec la médiation des autres. Et donc, effectivement, j'ai rencontré des figures de prêtres très marquantes qui m'ont permis de grandir dans la foi, qui m'ont accompagné. Et puis ces personnes au catéchuménat qui ont terminé ma formation, ma bonne connaissance de la foi chrétienne, elles sont innombrables, ces personnes, innombrables.
Vous disiez, Claire, tout à l'heure que le Seigneur est présent dans la vie quotidienne.
Oui.
De quelle manière ? C'est pas toujours facile de le voir.
Non, mais moi je le vois beaucoup aussi à travers la nature. C'est lui qui a créé toutes choses et donc y compris la nature dans laquelle on vit. Et donc, à travers la beauté de la nature, moi, je vois un cadeau du Seigneur pour nous. Et puis aussi à travers les personnes avec lesquelles on peut vivre et qui peuvent être des points d'ancrage, que ce soit dans l'amitié, dans le travail. Et puis, le Seigneur est présent aussi à travers des personnes non chrétiennes. Je pense à ma directrice qui a créé l'école dans laquelle je travaille. Elle n'est pas du tout croyante et pourtant, le projet d'école qu'elle a monté est un vrai cadeau pour plein d'enfants et plein de familles.
On n'a pas fait allusion à vos professions respectives. Mmh. Donc,
Moi, je suis enseignante en physique-chimie au niveau d'une petite école, au niveau du collège et du lycée. Et c'est une toute petite école privée, enfin, aconfessionnelle, mais qui n'est pas partie du système de l'éducation nationale.
Et vous, Cédric ?
Et moi, je dirige une entreprise multinationale qui est dans la logistique des essais cliniques. Et puis, depuis le mois d'août, je suis aussi conseiller au commerce extérieur de la France.
Donc, des agendas bien remplis.
Très remplis.
On y reviendra tout à l'heure. On va faire une première pause avec un chant que vous avez choisi, Cédric, un chant du groupe Glorious. Je suis dans la joie. Pourquoi ce choix ?
Parce que je crois que quand on vit tous les jours avec Dieu, on ne peut être que dans la joie.
Je suis dans la joie.
RCF, la joie se partage.
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie.
Car mon Dieu m'a libéré.
Au micro de RCF, nous accueillons Cédric et Claire Picot. Cédric, vous avez été ordonné diacre permanent le 29 octobre 2023. Vous êtes donc tous deux membres du groupement paroissial Saint-Jean-Paul II dans le Pays de Gex, dans l'Ain. Alors Cédric, vous nous avez expliqué que contrairement à Claire qui a grandi dans une famille catholique, pratiquante et qui n'a jamais lâché le fil, vous Cédric, vous avez été baptisé petit et puis c'est qu'à l'âge de 18 ans que vous avez finalement entamé un catéchuménat et vous avez reçu les sacrements, les deux autres sacrements d'initiation chrétienne et entamé donc ou poursuivi ce chemin spirituel. Et puis aujourd'hui vous êtes diacre permanent. Mmh. C'est un sacré parcours, ou un parcours sacré.
Oui.
Donc, qui vous a appelé au diaconat?
Il y a plusieurs éléments. D'abord, on avait songé un peu en couple au diaconat dans les années 2000. En fait, suite à cette conversion un peu fulgurante dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, j'ai tout de suite eu le désir, en grandissant dans la foi, d'un don radical au Christ et à son service. Et alors au début, je me suis dit, je vais être prêtre. Bon, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas forcément ma vocation. Et cependant, ce désir, et je crois que c'était aussi un désir de couple, ce désir de don radical de nos personnes à Dieu nous a toujours habités. L'idée ou l'inspiration du diaconat nous a tous les deux trotté dans la tête dans les années 2000. Et puis on a abandonné un peu l'idée parce que personne nous en a parlé.
Oui, on dit que le diacre ne s'appelle pas lui-même.
Non, jamais, voilà. Donc, ou rarement. Et ce n'est qu'en 2011, dans le Pays de Gex, où le curé de notre paroisse m'a interpellé pour le diaconat permanent. Et c'est donc à partir de 2011-2012 que nous sommes mis en chemin en vue du diaconat permanent.
Donc si le prêtre de la paroisse vous a interpellé, c'est parce que vous étiez déjà engagé au sein de ce groupement paroissial?
Oui, on faisait des choses. Alors à cette époque, on préparait les baptêmes. Et puis toi, tu faisais du caté peut-être?
Oui, moi je faisais du catéchisme pour la paroisse.
Voilà. Et puis la pratique dominicale?
Oui, dominicale ou de messe en semaine, parce que voilà, ça nous a toujours fait vivre au quotidien. Quand on aime Dieu, il faut le manifester et puis se nourrir.
Donc le oui, finalement, t'es facile?
Pour moi, le oui, c'était une évidence. J'avais pas forcément vraiment ressongé au diaconat, mais quand ce prêtre m'a interpellé pour éventuellement commencer à y songer et à cheminer, pour moi, ça a été une évidence, parce que je me suis dit, j'ai toujours eu le désir de me donner totalement à Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour moi, et parce que, en retour, j'ai envie de contribuer à ma petite manière à construire son royaume et à servir mon prochain. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait vraiment se mettre en route et envisager ce chemin. Hein. C'est pas parce qu'on dit oui qu'on est ordonné par la suite, mais en tout cas, on peut y réfléchir et cheminer.
Et alors donc, quelques mots sur ce parcours de formation qui dure plusieurs années, et où, comme vous le dites, c'est pas parce qu'on entre en formation au diaconat qu'on va jusqu'au bout.
Oui, exactement. C'est un cheminement qui nous permet de grandir dans la réflexion, de grandir dans le discernement, de grandir dans la formation, de grandir spirituellement et humainement. Et ça prend du temps. Et le temps est très important dans ce cursus. Donc, dans le diocèse de Beléars, la formation dure 5 ans et elle est précédée de 14 mois de discernement. Et il se trouve que comme nous appartenons à la communauté de l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel rajoute 2 ans de formation et discernement. Donc elle commence, en fait, étant membre de l'Emmanuel, le cheminement commence par ces 2 ans de formation et discernement avec l'Emmanuel, donc on a débuté en 2012. Et puis après, donc, s'ensuit donc ces 14 mois de discernement avec le diocèse et 5 ans de formation, plus potentiellement quelques années de pause, de réflexion, de pourparler entre l'Emmanuel et le diocèse. Et tout ça, quand on fait le compte, vous voyez, on arrive facilement à une petite dizaine d'années de cheminement, discernement, ouais. De formation.
Vous parlez de pourparler entre l'Emmanuel et le diocèse. Pourquoi vous dites cela? Parce qu'en fait, vous êtes ordonné pour le diocèse, mais avec une part de service pour l'Emmanuel?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, donc la communauté de l'Emmanuel a deux composantes. Il y a donc l'association pontificale de droit public de la communauté de l'Emmanuel qui réunit tous les laïcs de la communauté de l'Emmanuel. Et il y a également donc l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel. Donc quand on appartient à la communauté de l'Emmanuel et qu'on s'y est engagé plutôt de manière définitive.
Ce qui est votre cas.
Voilà, ce qui est notre cas. Et que l'on est ordonné en tant que ministre ordonné, on fait partie de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel. Donc le désir de la communauté de l'Emmanuel est toujours que les clercs soient incardinés localement, pour qu'ils puissent vivre pleinement une vie locale et leur mission en local, en lien avec l'évêque. Et en parallèle, ils sont membres de l'association cléricale de la communauté de l'Emmanuel. Donc il y a cette double appartenance.
D'où le double mission qu'on verra dans un instant.
Exactement.
Comment avez-vous été accompagné par le groupement paroissial et en particulier par les deux diacres qui sont présents sur ce groupement paroissial Saint-Jean-Paul II dans le Pays d'Aix ?
Alors c'est très simple, en fait on n'est absolument pas accompagné par eux pour une raison simple, c'est que tout le cheminement, ça peut être différent d'un diocèse à l'autre. Ce qui était jusqu'alors en vigueur dans notre diocèse, c'est que ce cheminement reste confidentiel. Et la raison de cette confidentialité, c'est pour pouvoir garder une pleine liberté dans notre choix jusqu'à la fin. Pour quelque part que notre choix ne soit pas influencé par le regard des autres. Et ça, je crois que c'est important parce que...
Pour pas mettre la pression.
Voilà, pour pas mettre la pression. Et puis pas que les gens qui sont déjà au courant dès la première année d'un cheminement qui peut durer 8 à 10 ans vous fassent diacre avant que vous-même vous ayez eu le temps d'y réfléchir. Donc, pour répondre à votre question, mes frères diacres du groupement paroissial ne m'ont pas accompagné puisque c'était confidentiel et qu'ils n'étaient pas censés être au courant.
On va peut-être dire aussi un mot sur ce temps fort qu'est l'ordination diaconale, donc qui s'est passé le 29 octobre 2023 à Gex. Donc vous avez été ordonné diacre permanent par Mgr Roland. Sans repasser toute la célébration en revue, pour vous, qu'est-ce que vous en retenez, Claire ?
Oui, c'était une cérémonie très paisible, très, très joyeuse et évidemment très émouvante. On était entourés par notre famille, nos amis, des membres de la communauté de l'Emmanuel. Donc on était vraiment en famille.
Cédric ?
Un temps vraiment très très fort, où l'Esprit Saint souffle fort. Pour moi, deux temps vraiment forts. Le temps de la prostration, donc qui est ce moment où... on s'abandonne totalement. Le symbole de la prostration, c'est l'abandon total à Dieu en imitant Jésus-Christ mort et ressuscité. Et puis aussi la confiance dans la communion des saints. Donc, premier temps fort, la prostration qui est physiquement impressionnante.
Oui, oui, le diacre ou candidat diacre est allongé par terre.
Voilà. Et puis l'imposition des mains de notre évêque qui manifeste à la suite des apôtres cette prière sacramentelle. Donc c'est un temps très fort et voilà, c'est les deux temps vraiment qui m'ont marqué, mais c'était assez intense, émotionnellement assez intense.
Et entouré de la fraternité des diacres permanents,
oui,
du diocèse et peut-être aussi de l'Emmanuel puisque...
Exactement. Tous les frères diacres du diocèse et nos quelques frères que l'on connaît de la région de la communauté de l'Emmanuel étaient présents. Et ça, c'est un aspect très important puisque au sein du rituel de l'ordination, il y a un endroit dans le rituel, le baiser fraternel entre le nouveau diacre qui rejoint cette fraternité diaconale.
Et alors donc la formation, vous l'avez suivie, vous poursuivez cette formation, vous avez des temps avec les autres diacres, maintenant que ce n'est plus confidentiel.
Oui, alors on a encore un petit peu de formation diocésaine à terminer. On a encore un peu plus d'un an de formation diocésaine. Et puis après, effectivement, on se rencontre avec les diacres du diocèse et leurs épouses de manière régulière. Et puis on a aussi de la formation continue au sein de la communauté de l'Emmanuel et des rencontres avec les frères diacres et leurs épouses au sein de la communauté de l'Emmanuel.
On marque une nouvelle pause avec donc un choix, Regarde l'étoile. C'est un chant de la communauté de l'Emmanuel, donc une communauté dans laquelle vous êtes engagés, Cédric et Claire Picot.
Regarde l'étoile.
Regarde l'étoile, un chant de la communauté de l'Emmanuel. Nous recevons Cédric et Claire Picot. Cédric, vous avez été ordonné diacre permanent pour le diocèse de Beléars et la communauté de l'Emmanuel le 29 octobre à Gex. Avant de voir les missions qui vous sont confiées en tant que diacre permanent, auriez-vous un passage de l'Évangile ou de la Bible qui vous accompagne particulièrement l'un et l'autre?
Alors, Cédric. Moi, le passage qui m'anime beaucoup, c'est un passage que nous avions imprimé sur les livrets d'ordination, qui est dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 25, verset 40. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que, quelque part, ça oriente beaucoup de choses dans le quotidien et dans la manière dont on interagit avec les autres et dont on considère les autres, notamment en entreprise.
De quelle manière alors en entreprise? Pour ceux qui n'auraient pas entendu la table ronde à laquelle vous aviez participé pour le jubilé du diocèse de Beléars sur la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de l'Église.
De quelle manière? Tout simplement, effectivement, ça rejoint un des aspects fondamentaux de la pensée sociale de l'Église qui est ce qui s'appelle mot à mot l'option préférentielle pour le plus pauvre, on pourrait dire l'option préférentielle pour les personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables. Et quelque part, cette phrase de l'Évangile, c'est ça, c'est comment je peux considérer les personnes qui sont momentanément ou de manière plus longue, en période de vulnérabilité, en situation de vulnérabilité ou en situation de fragilité, pouvoir les repérer, pouvoir les accompagner et pouvoir les faire grandir. C'est un des aspects, effectivement, de la pensée sociale de l'Église parmi tant d'autres aspects, mais dans un monde moderne où le règne de la performance, le culte de celui qui est le plus beau, le meilleur, le plus charismatique, etc. règne. Comment puis-je avoir une intention portée vers celui qui est en situation de fragilité ou de précarité pour pouvoir l'accompagner, l'aider et possiblement le faire grandir?
Et vous, Claire, le passage qui vous accompagne?
Moi, c'est un passage au début de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, le Verbe, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Donc moi, ce passage me parle parce que notre monde actuel est compliqué et on peut avoir l'impression qu'il est dans les ténèbres. Et malgré les ténèbres, les difficultés de nos vies, eh ben, Jésus est là, il est la lumière. Et il ne faut pas oublier, même dans les ténèbres, que la lumière existe et que Jésus est cette lumière.
Alors pour rendre témoignage de sa lumière, vous avez été, Cédric, ordonné diacre permanent et vous l'accompagnez, Claire. Quelles sont les missions qui vous ont été confiées?
Oui, alors il y a deux volets. Le premier est assez individuel et le deuxième est davantage une mission de couple. Le premier, c'est de pouvoir vivre au quotidien, déployer, témoigner possiblement, discrètement ou de manière plus concrète de la pensée sociale de l'Église. Donc, comme on le disait il y a quelques minutes, c'est comment mettre en pratique, de manière quelquefois totalement invisible et relativement discrète, les différents aspects de la pensée sociale de l'Église dans le quotidien de l'entreprise.
L'entreprise que vous dirigez. Et d'ailleurs, les employés sont au courant de votre ordination?
Alors, certains le sont, puisque certains étaient invités. Mes collaborateurs les plus proches, hein, voilà, j'ai opté pour le choix d'inviter mes quelques collaborateurs les plus proches qui étaient là, présents. Et effectivement, après, la plupart des employés connaissent en tout cas mes convictions, parce que je pense que ça se manifeste dans certaines décisions qui sont prises au quotidien. Donc sans être au courant que je suis engagé dans l'Église catholique, qu'aujourd'hui je ne suis diacre, ils connaissent une partie de mes convictions.
Donc voilà pour la première mission, donc au quotidien, dans le travail, au contact des collègues, faire grandir la pensée sociale de l'Église.
C'est ça. Et puis le deuxième chapitre, c'est une mission à la fois individuelle et à la fois de couple, puisque nous sommes, la communauté de l'Emmanuel nous a confié, donc notre évêque nous a confié la mission de soutenir, coordonner avec d'autres personnes et aussi de vivre une mission qui s'appelle « Écoute et prière ». Qui auparavant s'appelait SOS Prière. Donc c'est depuis une cinquantaine d'années, notamment une ligne d'accueil téléphonique. qui permet aux personnes qui ont besoin d'être entendues, écoutées par un chrétien qui les accueille au téléphone, donc d'être accueillis, d'être écoutés, et puis pour ceux qui le désirent, on peut prier pour eux et pour leurs intentions.
Il faut peut-être qu'on donne le téléphone.
Bien sûr, donc le numéro de téléphone est le 09 80 80 64 40.
Quiconque peut appeler, il y a des horaires, c'est tout le temps,
c'est de 7h à minuit, c'est
oui.
ça Objectivement, on n'arrive pas à avoir une permanence permanente, oui. Puisque tous les bénévoles au sein de Écoute et Prière sont des gens, pour la plupart, comme Claire et
comme
moi,
vous,
qui
oui.
travaillent en
oui.
activité, et on reçoit quelques milliers d'appels par mois. Donc il y a des créneaux qui ne sont pas forcément remplis, et les appelants atterrissent sur un répondeur téléphonique. Toutefois, il y a aussi une équipe de bénévoles qui prie pour les messages qui sont déposés. Mais effectivement, ça s'adresse à toute personne qui veut parler à un chrétien, compris pour ses intentions. Les personnes qui appellent sont de profils très très différents.
Et alors, comment vous faites pour faire tout tenir dans l'agenda, puisque vous êtes tous deux en situation professionnelle? Donc, vous avez des journées de plus de 24 heures?
Alors, pas à ma connaissance. Et vous voyez, le diaconat, le premier objectif, c'est pas de rajouter des couches qui, lorsqu'on est en activité professionnelle, sont difficiles à rajouter. Le fait d'être diacre, c'est d'abord d'être et de vivre ce que l'on est, c'est-à-dire présence de l'Église là où on vit au quotidien, présence quelquefois très discrète de l'Église là où on est au quotidien, vivre les valeurs et l'enseignement du Christ de manière visible ou invisible là où on vit au quotidien. C'est ça la première mission du diacre.
La petite lumière.
Voilà, exactement. Et puis, le deuxième aspect, c'est les missions concrètes qui nous sont confiées. Effectivement, elles peuvent, dans certains cas de figure, se rajouter dans l'emploi du temps. En ce qui nous concerne, elles ne se rajoutent pas, puisque la pensée sociale de l'Église, c'est un sujet que j'ai travaillé depuis de nombreuses années, que j'essaie de vivre depuis qu'on m'a confié cette entreprise il y a bientôt 9 ans. Et puis, la mission Écoute et Prière, que l'on vit avec Claire, on y est engagé depuis quelques années. Donc c'est pas nouveau, c'est pas des choses qui se rajoutent pour nous, pour moi, mais c'est simplement une reconnaissance de la part de l'Église de cet engagement nécessaire, utile pour l'Église et pour les personnes que l'on sert au quotidien.
Le temps passe vite. Auriez-vous une joie à nous partager, RCF, la joie de ce partage, Claire?
La joie de cette ordination, c'était vraiment un très très beau moment, à la fois l'accomplissement de quelque chose, puisque c'était un parcours qu'on a commencé il y a une dizaine d'années, et puis en même temps un début, puisque c'est une nouvelle vie pour Cédric et donc pour moi. Donc voilà, cette joie intense et intérieure, donc pas forcément exubérante. Voilà.
Cédric?
Moi, la joie qui m'habite, c'est la joie du don. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et c'est tout à fait ce qu'on expérimente dans cette mission Écoute et Prière. Vous voyez, quand on écoute des gens qu'on ne connaît pas, qui sont des gens comme vous et moi, ou quelquefois des gens en grande détresse, en fait, après 7 heures d'écoute téléphonique, on ressort avec une immense joie. Parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir, et je crois que c'est valable pour tout dans le quotidien de nos vies.
Un grand merci d'avoir fait
merci
la route et d'être venu dans nos studios pour nous donner votre témoignage. Bon vent dans ce nouveau challenge, dans cette nouvelle mission du diaconat permanent. Merci Cédric et Claire Picot.
Merci à vous.